Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment éviter une crise économique d'ampleur quand 500 à 600 000 emplois pourraient être détruits en France d'ici la fin de l'année? Syndicats et patronats doivent y réfléchir avec le couple exécutif aujourd'hui à l'Élysée. Une réunion de travail et déjà de nombreux points de discorde, vous l'entendrez.
Car certaines entreprises veulent réduire le salaire de leurs employés pour sauver les emplois, un chantage que nous analyserons chez la compagnie aérienne Ryanair.
Le billet politique par ailleurs sera consacré ce matin aux possibilités qu'a Emmanuel Macron pour concrétiser ses promesses de rupture politique. Il a peu de cartes en main, nous dira Frédéric Seiss dans un quart d'heure. Avant cela, nous irons à Washington où une nouvelle manifestation avait lieu hier devant la Maison Blanche. Les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont été inculpés.
Au Brésil, vous comprendrez comment vivent les habitants des favelas qui luttent contre le coronavirus grâce aux organisations criminelles.
Et puis en Chine, nous visiterons un laboratoire qui teste un éventuel vaccin face à la Covid-19. Ce n'est pas tout à fait au point. Syndicats et patronats se retrouveront donc aujourd'hui à l'Élysée pour sauver l'emploi français. C'est le troisième rendez-vous entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux. Le 27 mars dernier, le sujet était la protection des travailleurs face au virus. Le 10 avril, les conditions sanitaires et économiques de la reprise. Et donc aujourd'hui, l'emploi, Catherine Pétillon.
Du côté de l'Élysée, pas d'ordre du jour ni de précision, si ce n'est que cette réunion sera consacrée à ce qui pourra être fait pour préserver l'emploi et l'accompagnement des plus fragiles, notamment les jeunes entrant sur le marché du travail. Sur ce point, c'est la question de l'apprentissage qui devrait être mise en avant. La ministre du Travail avait d'ailleurs annoncé pour cette semaine un plan de soutien aux entreprises accueillant des apprentis. Si tous les syndicats soulignent l'urgence de la situation pour ces jeunes, ils s'inquiètent aussi des effets qu'auraient de nouvelles aides si jamais elles ne s'accompagnaient pas de contreparties. Surtout, alors que les effets économiques et sociaux de la crise sont de plus en plus visibles, ce serait loin de répondre à tous les sujets qu'ils comptent mettre en avant, à commencer par la réforme de l'assurance chômage dont ils demandent toujours le retrait et leur opposition à la réduction des salaires comme manière de préserver l'emploi. C'est possible depuis les ordonnances travail de 2017 via des accords dits de performance et le sera sûrement demain avec l'aide de l'État via le futur dispositif d'activité partielle de longue durée. En tout cas, c'est une stratégie de plus en plus poussée par l'exécutif ces derniers jours. Une petite musique qui monte et nous semble être une mauvaise solution, alerte les syndicats. Il faut se réinventer, disait Emmanuel Macron. Les syndicats assurent le prendre au mot et attendre un changement de politique sociale.
Des syndicats qui refusent déjà l'idée de travailler moins pour gagner moins. Car c'est bien cette peur qui anime les représentants syndicaux en ce moment, d'autant qu'elle est alimentée par une décision récente de Ryanair. La compagnie aérienne à bas coût demande à ses 350 salariés basés en France de réduire leur salaire de 10 à 20%, sans quoi elle supprimera un quart des postes chez les pilotes, 20% de ses effectifs d'hôtesses et stewards. Ryanair a vu la quasi-totalité de sa flotte clouée au sol pendant le confinement à Kim Kasmi.
Si la direction de Ryanair valide son plan, les hôtesses et stewards qui travaillent en France ne seraient plus payés en moyenne que 900 euros par mois, soit un salaire inférieur au SMIC. Des conditions que dénoncent les syndicats qui déplorent le manque de dialogue social et dénoncent un chantage à l'emploi. De plus, Ryanair est largement bénéficiaire, rappelle Damien Mourgue, délégué SNPN-CFO et chef de cabine chez Ryanair.
On veut bien discuter, on veut bien être raisonnable. Il faudrait d'abord avoir accès à des documents financiers qui montrent que la situation de la compagnie est vraiment difficile. Je vous rappelle qu'il est estimé que nous avons 4 milliards en réserve. Encore une fois, je répète, 1 milliard de bénéfices l'année dernière. Mais si vraiment il faut faire des efforts, il faut d'abord que la compagnie nous rencontre dans le cadre un comité social et économique, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, qu'on en discute. Nos collègues membres d'équipage sont déjà au SMIC. Donc, leur demander de gagner moins n'est tout simplement pas envisageable.
Du côté des pilotes, on se dit prêt à faire des efforts sur les salaires, mais pas à hauteur de 10%, car la compagnie les fait déjà voler au maximum légal autorisé par la loi, soit 900 heures par an. Du coup, la perte de salaire serait inévitable, selon Olivier Rigazio, membre du bureau du SNPL, principal syndicat de pilotes.
La loi impose un maximum d'heures de vol à un pilote dans l'année. Ils travaillent déjà énormément. Et donc, à la fin, ce qui se passera, c'est qu'ils seront payés moins.
De son côté, la direction de Ryanair confirme vouloir supprimer 3000 postes en Europe, mais ne donne pas encore de chiffres pour la France. En attendant, la compagnie assume cette décision au vu de la grave crise que traverse actuellement le secteur aérien. Puisque ces avions sont restés clos au sol depuis 4 mois et la reprise partielle de ces vols n'est prévue qu'à partir du 1er juillet.
Des baisses de salaire pour passer la crise. Notez que c'était aussi le thème d'un billet politique, d'un billet économique d'Anne-Laure Jumet. Un billet économique à retrouver sur franceculture.fr. Alors qu'hier, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif spécifique d'activité partielle. Cela doit permettre, sous réserve de négociations d'entreprise ou de branche, une réduction du temps de travail compensée en partie seulement par l'État. Autre mesure qui sera annoncée cette fois ce matin, la possibilité d'accéder plus vite et plus longtemps au plafond des frais d'incident bancaire pour les personnes en difficulté. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit l'évoquer dans la matinée à l'Assemblée nationale. Comment faire encore pour aider ceux qui ont ou qui vont perdre leur emploi en cette année 2020? Nous le disions pendant le confinement, la crise a déjà poussé de nombreux foyers à se tourner, pour la première fois souvent, vers des associations. Les Restos du Cœur, notamment, voient le nombre de bénéficiaires augmenter, mais ils ont perdu nombre de bénévoles, Margot Delpierre.
Les Restos du Cœur viennent de mener une enquête auprès de 10 000 de leurs volontaires et quelques tendances se dessinent déjà. Entre 1 et 2% des anciens bénévoles interrogés ne souhaitent pas revenir, 14% ne sont pas sûrs pour des raisons qui restent à analyser. La peur d'attraper le virus en fait partie. De quoi inquiéter Brigitte Michet, responsable de la coordination des missions sociales au Restos du Cœur. Elle est en pleine préparation de la campagne d'hiver.
Le bénévolat est un véritable enjeu au Restaurant du Cœur. L'association repose complètement sur les bénévoles. Donc oui, c'est une véritable inquiétude sur notre enjeu d'accueil, d'autant que on prévoit une augmentation du nombre des personnes à aider.
Une bonne nouvelle malgré tout, la grande majorité des nouveaux bénévoles des restos arrivés en renfort pendant le confinement ont envie de poursuivre leur engagement. La Croix-Rouge, elle aussi très sollicitée récemment, veut accompagner cet élan. Caroline Soubi dirige le département engagement, formation et initiative.
On le souhaite ardemment parce que c'est été l'occasion pour les personnes notamment qui n'avaient pas forcément une disponibilité pour le bénévolat, de se dire que c'est quand même important aussi d'être pleinement citoyen en étant mobilisé auprès d'une association ou toute autre organisation évidemment. Donc nous, on souhaite évidemment capitaliser sur cette mobilisation citoyenne qui a eu lieu pendant ces quelques semaines.
30 000 personnes ont contacté la Croix-Rouge pour proposer leur aide, mais toutes n'ont pas rejoint les rangs de l'association. Elle compte 60 000 bénévoles en temps normal.
Pour soutenir son économie, l'Allemagne avance des chiffres et un plan de relance historique. 130 milliards d'euros sur 2 ans pour soutenir à la fois l'offre et les entreprises, mais aussi la demande avec entre autres des subventions pour les familles. C'est aussi pour soutenir son économie que l'Italie, elle, ouvre ses frontières aux touristes européens. Ils peuvent s'y rendre depuis hier après un mois de déconfinement prudent.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Christophe Castaner promet une sanction pour chaque faute ou mot raciste dans la police.
Oui, le ministre de l'Intérieur s'exprimait hier devant le Sénat au lendemain de manifestations, notamment à Paris, pour dénoncer les violences policières. Hier soir encore d'ailleurs, des rassemblements ont eu lieu à Toulouse, à Montpellier, à Avignon, réunissant 6000 personnes au total. Manifestations du même type à Londres, à Stockholm, Helsinki, à chaque fois contre le racisme et les violences policières. Voilà qui est un écho de plus à ce qu'il se passe aux États-Unis depuis 9 jours, depuis en fait la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier de Minneapolis. On a appris hier que cet officier allait finalement être poursuivi pour homicide volontaire. Ses 3 collègues sont eux inculpés d'homicide également, ce qui n'a toutefois pas calmé la colère des manifestants qui sont de toutes couleurs de peau, Grégory Phillips.
Devant la Maison Blanche, hier soir, une foule compacte et ce cri qui résonne désormais dans toute l'Amérique. Black Lives Matter, les vies noires comptent. Du nom de ce mouvement créé il y a 6 ans, quelques mois après la mort du jeune Trayvon Martin en Floride. À Washington, mais aussi Atlanta, Houston, Los Angeles, de plus en plus de blancs dans les rassemblements. Tara porte un panneau qui dit ceci. Le silence des blancs est de la violence. Si on ne s'indigne pas, dit-elle, du meurtre de ces vies noires, alors nous sommes une partie du problème. On aurait dû descendre dans la rue il y a déjà longtemps. Aux États-Unis, un Afro-Américain a 2,5 fois plus de risques qu'un blanc de se faire tuer par la police. Et trop souvent, les poursuites contre les policiers sont retardées ou abandonnées. Mais cette fois, Tara espère que la justice ira jusqu'au bout. Je suis contente de voir que ces 4 officiers, maintenant, sont inculpés. 1 pour meurtre, les 3 autres pour complicité. Mais j'espère que notre mouvement va continuer et que désormais les policiers n'auront plus d'impunité. Hier soir, jeunes, et plus vieux, blancs et noirs, étaient comme en communion à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, en espérant que leur chant porte jusqu'aux oreilles de Donald Trump.
Le président américain qui décidément a les oreilles qui sifflent en ce moment. Après Barack Obama, après l'ancien président George W. Bush, c'est Jim Mattis, son ancien ministre de la Défense, qui sort de sa réserve. Il accusait hier soir Donald Trump de vouloir diviser l'Amérique. Autre président qui est autant critiqué qu'il est soutenu dans son pays. J'ai nommé Jair Bolsonaro au Brésil. L'épidémie de Covid-19 y progresse de façon alarmante. Un nouveau triste record de décès a été comptabilisé. Stabilisé sur place hier soir, 1349 morts en 24 heures seulement. Et cela, malgré cela, Jair Bolsonaro fait pression pour relancer l'économie du pays. Dans les favelas de Rio, les populations sont déboussolées en ce moment. Et la gestion de la crise sanitaire est finalement entre les mains des organisations criminelles et du trafic de drogue. C'est un reportage au Brésil d'Olivier Poujade.
Podemos sim.
Le chef du gang local nous donne son feu vert, mais il ne communiquera que par message audio. Il nous dit qu'il ressent les symptômes du coronavirus, qu'il se soigne, un cocktail de médicaments pour pouvoir se remettre sur pied, car c'est aussi lui qui fixe les règles de quarantaine pendant l'épidémie.
Le trafic a fait ce qu'aurait dû faire l'État.
Zayn est producteur culturel. En ce moment, tout est à l'arrêt pour lui. Alors il participe, il aide à évacuer notamment les cadavres des habitations. Il s'est occupé de 8 victimes du Covid depuis le début de l'épidémie.
L'idée de ceux qui gouvernent, c'était que tout le monde soit contaminé ici. Mettre un cordon sanitaire autour de nous et dire à la police, laissez-les mourir à l'intérieur.
Jair Bolsonaro n'a jamais appelé les Brésiliens à rester confinés. Nombreux sont ceux qui se sont vus mourir ici. Après avoir été contaminés, Fabiana ne voit plus les choses de la même manière.
Je suis en faveur du gouvernement Bolsonaro, mais j'ai mon propre point de vue. Jamais je ne ferai ce qu'il est en train de faire, dire que l'on doit sortir, se réunir. Ça, c'est pas possible, parce que c'est facile de parler du virus sans jamais en avoir ressenti les effets.
Les difficultés d'accès aux soins, à la nourriture, le chômage de masse qui se profile, et bientôt, très peu de gens en doutent ici, un chaos social succédera à la crise sanitaire.
C'est un traitement expérimental qui est justement utilisé au Brésil, longtemps et abondamment critiqué. La voilà de retour. L'hydroxychloroquine sera de nouveau testée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS avait arrêté ses essais après la publication il y a 9 jours d'une étude à charge parue dans la revue The Lancet. Après analyse des données sur la mortalité, les membres du comité ont finalement estimé qu'il n'y avait aucune raison de modifier le protocole. En France, l'agence du médicament va réexaminer sa position. Et pendant que certains cherchent un traitement à la Covid-19, d'autres se penchent sur un éventuel vaccin. Notre correspondante en Chine a pu visiter l'un des laboratoires du pays qui est autorisé à faire des essais cliniques. C'est largement expérimental, vous allez l'entendre. Le laboratoire se trouve dans la grande banlieue de la capitale, Dominique André.
Au-delà du 6e périphérique de Pékin, dans le vaste complexe pharmaceutique Sinovac Biotech, des équipes travaillent jour et nuit. Le vaccin expérimental est en phase 2. Le groupe privé est connu pour avoir été le premier au monde à vendre en 2009 un vaccin contre la fièvre porcine H1N1. Sur une étagère sont posées des boîtes blanches et oranges qui contiennent le vaccin expérimental Coronavac. Équipés de blouses et de chaussons masqués, nous suivons pas à pas l'un des directeurs du laboratoire, Pei Chang Liu.
En raison de l'urgence, on fait des essais simultanés sur les souris et les singes. Ça nous fait gagner du temps, mais les coûts sont plus importants. Il y a 600 volontaires dans la deuxième phase d'essais cliniques sur l'homme. Nous allons bientôt démarrer l'essai sur des personnes âgées, des jeunes et des enfants. Nous sommes en train de parler de la troisième phase de l'essai clinique avec l'OMS et des pays étrangers. On aimerait faire la troisième phase de l'essai clinique en Europe.
Huang Xiaoyue a 19 ans. Étudiante, elle fait partie des volontaires engagés dans l'essai d'un autre vaccin supervisé par la générale Chen Wei sur une base militaire à Wuhan. L'étudiante a déjà reçu une injection.
10 minutes après l'injection, j'ai eu des symptômes de diarrhée. J'avais aussi des problèmes de rythme cardiaque. 2 jours après, j'ai eu de la fièvre, mais pas de soucis. Elle est tombée le lendemain. J'ai été fatiguée. Pendant 4 14 jours. Maintenant, c'est fini.
La Chine pourrait commercialiser un vaccin dès la fin 2020 ou début 2021. L'annonce a été faite il y a quelques jours par un organisme gouvernemental.
C'était Dominique André depuis Pékin. Pékin où avait lieu il y a 31 ans exactement la répression de Tiananmen. Habituellement, un rassemblement du souvenir a lieu à Hong Kong, seul endroit autorisé à commémorer cette nuit sanglante. Mais aujourd'hui, la veillée est interdite pour la première fois depuis 89. La police invoque les risques liés à la pandémie. Les organisateurs ont appelé les habitants à allumer tout de même des bougies à 20h, heure locale, c'est-à-dire 14h en France. Il est tombé la nuit dernière, l'équivalent de 3 mois de pluie à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Ce département du Sud fait partie des 5 à passer ce matin en vigilance orange pour les risques d'orages et de pluie. Cela va du Vaucluse aux Alpes-Maritimes. Des orages qui vont se décaler vers l'est dans la journée. Ce matin, comptez 16 degrés à Lille, à Paris et à Nantes. Ça se rafraîchit un peu. 18 degrés à Strasbourg et Lyon et 20 à Marseille.
Mais oui, ça se rafraîchit même. Franchement, merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture. La météo, ça fait partie de la vie ordinaire.